RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi de vous retrouver, c'est la première de l'année, bonne année, meilleurs vœux que de bonnes choses, surtout la santé parce que c'est le plus important. Vous nous avez manqué là pendant les quelques jours où vous n'étiez pas là, du coup on s'est reposé tous, en presque tous. Daniel Riolo est avec nous, bonne année mon Daniel.
Salut les amis, bonne année à tous.
Voilà. Meilleurs vœux, tout plein de bonnes choses.
Voilà, exactement.
Jonathan Macardy, toujours aussi élégant, ça va Jonathan? Bonne année à toi mon gars.
Bonne année, salut Nico, salut Daniel.
Voilà, et bonne année à vous toutes et à tous. Alors bon vœu, je vous le disais il y a quelques instants, et justement, on vous demande vos vœux ce soir dans l'after, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live également. Quels sont vos vœux football, bien entendu, pour cette nouvelle année 2018? C'est une année de Coupe du Monde, bien entendu, vous avez peut-être des souhaits particuliers concernant vos clubs. On attend vos propositions, vos vœux au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et puis retour évidemment sur la 22e journée de Première Ligue, vous l'avez vécu sur RMC avec Jonathan Macardy, avec Daniel Riolo, avec toute la Dream Team également. On va vous donner les résultats justement de cette 22e journée de Première Ligue. Tottenham est allé s'imposer à Swansea 2-0. West Ham s'est imposé face à West Brom 2-1. Match de la peur entre ces deux équipes. Crystal Palace est allé s'imposer à Southampton 2-1. Et victoire du leader Manchester City face au Watford d'Abdoulaye Doucouré. Sterling cabassé contre son camp et Aguero marqué pour les Citizens. Au classement, City est largement devant Manchester United qui reste quand même deuxième avec 2 points d'avance sur Chelsea. À la 4e place, on a Liverpool avec 44 points qui a 4 points d'avance sur Tottenham. À la 6e place, Arsenal avec 38 points. 7e, Burnley qui est l'équipe sensation de cette première partie de saison. Leicester est 8e avec 30 points. Everton est 9e. 10e, on retrouve Watford en deuxième partie de tableau. Huddersfield, Brighton, Newcastle, Crystal Palace, Bournemouth, et puis on retrouve parmi les mal classés West Ham avec 21 points, Sutton et Stoke avec 20 points, et puis avant-dernier West Bromwich à égalité de points avec Swansea qui compte 16 unités. Vous avez vécu ces matchs, vous en avez pensé quoi les gars?
Les matchs du soir.
Tiens, regarde, je vais les passer. Mais on va faire ça comme ça. Voilà.
Les matchs.
C'est vachement télégénique ce qu'on fait.
Ouais. Ouais, en plus, regarde ce qu'il me donne comme papier pourri, parce que j'ai oublié de prendre des feuilles.
Ah. Tiens.
Ah, donne-moi une belle feuille. Voilà. Allez, récupère ton bout de papier pourri. Ah, merci Jonathan quand même d'avoir aidé, hein, même si voilà. Les matchs du soir. Moi, je suis comme je le disais tout à l'heure, parce que nous on était à l'antenne pour les suivre sur RMC. Le match de City principalement, mais alors au début, parce qu'après rapidement, bon, c'est devenu un match dont l'issue ne faisait plus de doute. Et même City qui quand même doit être un petit peu fatigué là, parce qu'en cette fin de période des fêtes là, toutes les équipes sont un peu cramées en Angleterre, donc ils ont vraiment joué très tranquille. Mais c'est City l'équipe à voir de toute façon en Angleterre, et à chaque fois que je les vois, même si là ce soir ça n'était que sur la première période, à chaque fois moi je suis épaté parce que fait Guardiola, parce que il a fait de certains joueurs de cette équipe là voilà. Après les autres matchs, non, c'était pas terrible. Il y a eu le dénouement à la fin là dans le match qui intéresse pas grand monde là, West Ham West Brom. Le
Carole.
Dénouement là, voilà, Andy Carroll, c'est dans certains matchs comme ça te permet de revoir des mecs que t'avais oublié. Andy Carroll, tu as hop, il a ça revient le transfert aussi. À 40 millions à Liverpool, Alan Pardew sur le banc qui a cramé toutes les équipes dans lesquelles il est passé mais qui a toujours du taf, voilà, ça te permet de raconter des petites histoires comme ça, parce que tu sais pas quoi faire quand tu regardes les matchs, donc voilà quoi. Ah, donc
on
va raconter des histoires
juste avant de donner la parole à Jonathan. Tu mets le capuchon sur le stylo s'il te plaît, parce qu'après ça sèche encore.
Non, parce qu'il faut que je fasse un truc pendant que Jonathan, tu sais, je fais comme les hommes politiques, pendant qu'ils parlent je prépare les répliques.
Écoute, ouais, non, la soirée, moi j'ai bien aimé le match de Tottenham, c'était sérieux. Alors oui, il n'y avait pas beaucoup de fioritures, mais Dele Alli confirme qu'il son regain de forme après un début de saison plus que compliqué où il était l'ombre de lui-même.
Ah bah Pochettino passe plus de temps à le défendre qu'autre chose en ce moment.
Ouais, mais c'est normal, hein, le début de saison était assez pourri, mais là depuis 5-6 matchs, on a l'impression de revoir le mec, le joueur hyper agressif, hyper hargneux et très très bon techniquement. Donc ça fait plaisir, à la fois pour Tottenham et pour l'Angleterre. Et puis l'élimination du Napoli contre un très bon Atalanta.
Alors on y est parvenu effectivement. Quart de finale de Coupe d'Italie, Naples qui s'incline à domicile
et
face à l'Atalanta.
Moi, j'aime, d'une manière générale, j'aime toujours voir le Napoli et l'Atalanta jouer. Je trouve que c'est deux très belles équipes qui ont deux très beaux collectifs avec des bons joueurs, et pour un championnat qui est encore une fois anormalement sous-coté en France.
On va revenir quand même sur la Première Ligue et cette 22e journée. Philippe Auclair est avec nous. T'es là, Philippe?
Mais je suis là, mon lapin.
Meilleurs vœux, mon poulet.
Écoute, best wishes. Happy New Year, tout le monde, même à Daniel.
Comment non, il doit le prendre ça?
Non, mais pas du tout.
C'est parce qu'aujourd'hui, je lui ai souhaité les vœux et je lui ai dit je suis désolé, je te souhaite plein de trucs, mais sache-le, Arsenal sera pas champion.
Non,
mais
on est d'accord, c'est une des nombreuses choses sur lesquelles on
soit
d'accord.
Des fois, t'oublies les trucs. Période de vœux, tu te mets à penser à souhaiter des trucs de dingue parce que tu crois que ça va arriver.
Mais là, non.
Et Philippe Auclair, il a eu 24 heures d'absence entre le 31, la première coupe de champagne et la fin de la soirée. Oh putain, il a rencontré un supporter d'Arsenal, ils sont dit on va être champion parce qu'on va gagner tous les matchs, on va remonter, Et là, il s'est réveillé le 2 et c'est cramé.
C'est terminé.
Et je lui ai rappelé aujourd'hui et il m'en veut.
No remontada.
Voilà. The remontada. Désolé, du tout. Je t'en veux pas du tout.
Ouais.
Alors moi, qu'est-ce que tu retiens de... On va commencer par City, cette victoire 3 face à Watford, victoire du leader. Alors, ils ont plié le match en 13 minutes, hein, après le but de Sterling.
Bah écoute, et...
Qui est le meilleur buteur de City, hein, Raheem Sterling. C'est peut-être pas celui dont on parle le plus, mais c'est le leader offensif, du moins statistiquement.
Bah, quand Daniel parlait des joueurs que Guardiola a transformés, je pense qu'il est dans le... dans le premier wagon et il est en première place,
oui, ça c'est sûr,
ça c'est clair. Et il y en a d'autres, hein. Leroy Sané, c'est pareil. Et dire, c'est une des choses que l'on dit beaucoup, enfin dont on parle beaucoup en Angleterre, dans ce que
Philippe,
on entend.
Coupe, mais Sterling, excuse-moi, comparé à Sané, il faisait un petit peu espoir qu'il allait probablement jamais confirmer.
Il avait été tellement bon avec Liverpool. N'oublions pas cette saison superbe de Liverpool où il manque le championnat d'un rien à la toute fin à Crystal Palace. Hein.
Mais après, c'était après, franchement, à chaque fois qu'on le voyait, c'était décevant. Et Leroy Sané, moi, je comprends ce que tu veux dire. Ce gars-là, tout le monde voyait. En plus, il est très jeune. Tout le monde voyait son potentiel, mais il avait également le potentiel à s'entêter, à devenir un joueur individualiste.
Ouais, aussi, ouais.
Ce qui a été le cas d'ailleurs pendant les derniers matchs. Là. Peut-être la fatigue aidant.
Le mec tombe dans les mains de Guardiola et de Joachim Löw. C'est un gars qui a du bol quand tu tombes dans les mains de deux entraîneurs comme ça pour la progression et pour ta carrière. Voilà,
il faut le talent pour être également dans les plans de ces gens-là, et il l'a. Quand tu parlais de Raheem Sterling, Nico, on peut en effet évoquer Leroy Sané, on peut parler de John Stones, qui est quand même l'un des grands espoirs du football anglais.
Et Otamendi, que tout le monde mettait à la poubelle.
Oui, mais qui avait été, cela dit, avant, Daniel, il avait été élu meilleur défenseur central de la Liga avant de venir à Manchester City.
Ça, bien sûr,
c'était un très bon joueur.
Je me souviens bien quand on va le chercher à Real Sociedad, c'est un défenseur, on sait qu'il va devenir, enfin, tout le monde dit qu'il va devenir grand, mais moi je me souviens d'il y a encore 2 ans, c'était tout le monde disait il a une charrette, c'est fini. Otamendi, c'est mort.
Aujourd'hui, d'ailleurs,
même avec l'Argentine.
Guardiola fait une conf de presse il y a 2-3 jours, il expliquait que le Superman de cette équipe c'était Nicolas Otamendi. C'est de quoi il parle, parce que c'est le seul défenseur.
Les relances, tu vois les relances qu'il a, le gars.
Et puis c'est le seul défenseur qui est tout le temps là, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés aussi du côté de City.
À un moment, Otamendi, alors quand il a commencé à Vélez en Argentine, les gens pensaient que c'était le nouveau Walter Samuel, on l'appelait The Wall aussi. Mais
c'est beaucoup plus que ça.
À un moment, bon, Benfica c'était pas mal, mais
il est un peu différent.
On pensait que ça allait vraiment pas confirmer, quoi. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'avec Guardiola, il atteint le potentiel qui devait être le sien au début de sa carrière.
Mais tout,
Ederson également,
c'est un joueur de remarquable.
Mais tu regardes de toute façon toute cette équipe et tu te dis, dans cette équipe, quels sont les joueurs dont il y a 2 ans, vous pensiez ce seraient des superstars?
Mais bien sûr.
Et la réponse, et il y en a peut-être un ou deux.
Si, De Bruyne.
De Bruyne.
Sergio
Aguero,
Le Kun.
Par contre, Kyle Walker, non. Fabian Delph, il était, mine de rien, il relevait d'une blessure qu'il avait eue à Aston Villa.
Ouais, lui aussi, il l'a déterré. Hein.
Oui, mais c'est un super joueur. Il l'a retrouvé.
Toi, t'as connu Kevin De Bruyne arrivant en Angleterre, David Silva. Deux joueurs qui sont dans la ligne des trois du haut normalement, leur carrière.
Les mecs sont devenus des milieux de terrain, c'est autre chose.
L'équivalent de Draxler, Verratti au PSG, si tu fais un comparatif.
Tu sais ce qu'on se posait tout à l'heure en regardant le match, Philippe, c'est que quand tu regardes l'effectif de Manchester City en qualité intrinsèque, c'est loin d'être le meilleur effectif d'Europe.
Mais je vais te proposer un truc, puisque tu dis ça, Jonathan, et je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, si tu prends Manchester City, on va prendre notre PSG parce qu'on le maîtrise bien, quoi. Ok. Eh bien, si tu prends si tu prends les mecs comme ça en poste pour poste, aujourd'hui, moi je t'en échange, j'échange collectivement, je les échange tous évidemment, je prends collectivement, mais en homme, De Bruyne, David Silva au milieu. Et enfin le milieu de terrain de City,
Les latéraux.
Ederson.
Ederson,
hein.
Ouais, le gardien, ouais.
Ah bah oui. Ederson. Ouais. Delph, Kyle Walker, je prends quand même.
Et
moi, je prends Otamendi. Sur
les latéraux, les latéraux.
Mais tu vas avoir... Bah,
Otamendi
pas. Otamendi pas, forcément. Non, mais c'est pas net. Non, mais c'est pas net. Ce qui est net, c'est De Bruyne, David Silva.
Et les latéraux.
Et pourtant, collectivement...
Les latéraux, c'est net.
Ah, Walker, si, c'est un super latéral, mais Daniel Alves, dans un grand jour, c'est un super joueur aussi. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de parler d'un bilan. C'est
Delph,
pas comme
alors.
Si... Bah Delph, forcément, oui, ouais. Évidemment, il y a personne à gauche, forcément. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour insister sur la force collective de ce qui est devenu cette machine. Les trois de devant, tu les changes pas.
Bien sûr.
Voilà, c'est que t'en as pas trois devant, hein, t'en as six, quoi. Il peut tourner en permanence, hein, Guardiola. Ça là-dessus.
Mais même dans les six, il n'y en a aucun, à part Agüero, peut-être.
Mais c'est fantastique. Mais moi, ce que je retiens de cette équipe, c'est la façon dont elle évolue. Et ce que fait Guardiola de cette équipe-là. Plus que des individualités, il y a des super joueurs. J'adore David Silva, Kevin De Bruyne, mais c'est ce qu'on a fait, comment il les a, fait jouer simplement et avec justesse Guardiola qui est extraordinaire.
Mais
c'est ça qui est
fort. Tu sais, juste pour terminer là-dessus, par rapport à ce qu'il a fait au Bayern, je trouve que ça a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Au Bayern, j'ai l'impression que la greffe, en fait, n'a jamais pris, même si, les performances de Messi étaient extraordinaires.
Effectif plus jeune à Manchester City, plus facilement malléable.
Et c'est là, en fait, ce qui fait que Guardiola, ça marche à City, c'est que l'effectif, en fait, il est à son image.
City, il est le patron. Au Bayern, c'est jamais le patron. Complètement le patron.
C'est un club qui avait moins d'identité et de personnalité que le Bayern, ce qui a permis à Guardiola de faire ce qu'il voulait.
Exactement.
N'est-ce pas également la conséquence d'avoir un championnat dans lequel, parce que n'oublions pas l'année très compliquée qu'il a eue la saison dernière, mais quand tu arrives, tu es au Bayern, on attend de toi que tu gagnes le titre, et c'est comme ça, c'est normal. Tu arrives à Manchester City, même si City a gagné le titre avec Pellegrino et avec Pellegrini, excusez-moi. Pellegrino, non.
Non, lui, il va pas gagner beaucoup de titres.
Non, il a pas gagné beaucoup. Pellegrini et Roberto Mancini, ne l'oublions pas. C'est pas du tout la même situation. Tu arrives, City n'a pas gagné le titre, ou City, c'est la fameuse saison du titre de Leicester, etc. Il est dans une situation complètement différente. Il doit se redéfinir. Il doit également changer son optique du jeu,
ouais,
un petit peu, la modifier, parce qu'il est face à cinq équipes, au moins, qui peuvent être concurrentes pour le titre en Allemagne. Désolé, mon cher David, qui n'est pas là ce soir, mais ça n'était pas le cas. T'avais le Borussia Dortmund, tu pouvais avoir Schalke une année sur 15, tu peux voir le Bayer Leverkusen. Là, c'est différent. T'auras Manchester United à te coltiner, t'auras Chelsea, t'auras Liverpool, t'auras Tottenham, t'auras Arsenal, et puis t'auras toujours le Joker, qui peut s'appeler Leicester, qui peut s'appeler Burnley, qui peut s'appeler un autre. Il a, à mon avis, on en reparlera, je l'espère, à la fin de la saison, mais il a également changé son style.
Tactiquement,
oui, absolument. Ouais. Absolument. Il a changé son style, il a adapté.
À la première ligue, ouais.
Il a compris. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé lui-même. Il a parlé du fait que c'est un championnat dans lequel une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le second ballon. C'est une notion qui, dans d'autres championnats comme la Liga ou la Bundesliga ou la Serie A, n'a pratiquement aucun sens. C'est cette lutte sur le second ballon.
C'est quand même du Guardiola, hein.
Ouais, mais simplement,
quand vous dites qu'il s'est adapté, je vois pas ce que vous voulez dire précisément.
Il s'est adapté. Bah, il s'est adapté au niveau du défi physique en particier, je pense.
En la densité sens que sur les côtés.
J'ai pas vraiment ce sentiment-là, moi. Son adaptation, c'est le temps. C'est le temps que son équipe lui ressemble absolument pour faire ce qu'elle a envie de faire sur le terrain.
Parce qu'il se débarrasse de joueurs qui ont passé la trentaine ou qui sont près de la trentaine.
Plus maintenant qu'on voyage quasiment jamais à Barcelone. Ederson qui relance sur ses ailiers directement.
Bah, il le faisait, ça.
Oui, il a toujours aimé les gardiens qui relancent sur ses ailiers.
Ça, je pense pas qu'à Barcelone on le voyait souvent, des relances longues. Et je trouve que l'équipe, elle, c'est la même chose dans l'esprit, tu vois, au niveau de la récupération du ballon, mais les joueurs sont quand même placés différemment. C'est beaucoup plus dense sur les côtés que dans l'axe par rapport à ce qui se faisait à Barcelone.
Il y a toujours un joueur essentiel dans ce système-là qui est donc très offensif, c'est son mec devant la défense.
Ah,
pour lui, c'est capital.
Fernandinho.
Il avait Busquets.
Ah, celui-là. Ouais.
Et aujourd'hui, et c'est là aussi, si on continue le parallèle avec d'autres prétendants, D'abord, le milieu de terrain, c'est une zone essentielle, on le sait, et je pense que dans ce secteur-là, le PSG est en retard. Mais dans le joueur devant la défense, quand tu vois que le Real a un mec comme Casemiro,
Busquets, je voulais en parler, moi, de Fernandinho, tu vas parler.
Qui est toujours, on l'a encore vu dans le Classico du 23 décembre. Un match extraordinaire.
Je veux parler de Fernandinho, Daniel.
Et Fernandinho là.
Alors justement,
c'est des joueurs.
C'est Nico que Fernandinho, c'est un joueur dont j'arrête pas de chanter les louanges.
Mais il est en fin de contrat.
Mais c'est un homme de l'ombre.
Oui, c'est un homme de l'ombre.
Il y a beaucoup, il y a beaucoup de rumeurs ces dernières semaines en Angleterre, qui comme quoi il aurait signé déjà une prolongation. Il y a rien d'officiel pour le moment. C'est vrai que c'est certainement le joueur le plus important pour la raison que tu as évoqué, Daniel, tout à l'heure. C'est que les milieux qui avec lui sont très offensifs. Il faut qu'ils ratissent un max. Ils ont pas intérêt à se grouiller là pour l'officialiser.
Oui, on est bien d'accord. Mais je pense que ça ne fait absolument aucun doute. Oui, il va rester. Ouais. L'autre chose, il est complètement adapté. C'est un de ses joueurs. En plus de ça, bon, quand tu lui parles, tu te rends compte qu'il parle parfaitement anglais, qu'il est complètement à l'aise dans sa culture d'adoption.
Ouais, c'est un joueur fidèle. Hein, il a fait peu de clubs dans sa carrière.
Il a fait très peu de clubs dans sa carrière. Il est à sa place. Il est là où il faut. Il est son entraîneur. L'adore, le vénère. Chaque fois qu'on lui pose une question sur Fernandinho, tu as les yeux qui s'éclatent.
Ouais, c'est un joueur essentiel pour son système.
C'est un joueur magnifique. Mais moi, je me souviendrai toujours, moi, Daniel, la première fois que j'ai découvert véritablement Fernandinho, je l'avais vu à la télévision, mais quand je l'ai vu jouer contre Chelsea en Ligue des Champions pour le Shakhtar. Ouais. La vache, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est vraiment bonifié avec Guardiola. Hein.
Oui, mais d'un autre côté, il a toujours été aussi bon que ça. Quand il était avec Lucescu, qui était quand même pas le plus mauvais des entraîneurs, admettons-le, il était déjà exceptionnel. Mais il y a une chose, moi, que je trouve phénoménale chez Fernandinho et que j'avais vu dans le derby de Manchester, c'est le fait que Fernandinho est l'homme vers lequel Guardiola se tourne lorsqu'il y a des changements tactiques à faire en cours de match. Tu sais, quand tu vas faire une permutation, quand tu vas demander à ton de milieu de terrain te placer un peu plus haut, etc. Vers qui se tourne vers Fernandinho. Dans ce match contre Manchester United, où grosso modo City a mangé United, soyons clairs, on était précis, et ben c'est Fernandinho qui était l'homme qui a joué dans trois positions différentes en 90 minutes, était à l'aise dans les trois positions, a mis une fraction de seconde à se positionner et à trouver les bons réflexes et les bonnes attitudes et les bonnes passes à faire. Mais des joueurs comme ça, t'en as combien? Et c'est des joueurs dont on ne parle pas assez. C'est du genre, c'est comme Mascherano à sa grande époque.
De l'ombre, comme, mais c'est comme Casemiro dans l'équipe vainqueur de la Ligue des Champions, est un joueur essentiel aussi, son travail.
Passons du joueur de l'ombre au joueur avec un S de Londres. On va parler de Tottenham qui s'est imposé ce soir. Victoire 2-0 à Swansea. Les buteurs Llorente qui est de retour du côté de Tottenham.
Oui, Harry Kane était sur le banc, un petit peu de repos, ça fait pas mal puisqu'il joue dans 48 heures et on y sera d'ailleurs contre West Ham.
Voilà, alors c'est un résultat qui est important puisque Tottenham monte à la 5e place du classement. Il passe devant Arsenal qui aura le derby, ce sera demain d'ailleurs sur SFR Sport, le derby, le match face à Chelsea. Arsenal-Chelsea que vous pourrez suivre bien entendu également chez nous, 20h45 le coup d'envoi, le match de demain soir. Et Tottenham qui aura de toute façon un match en moins par rapport à Arsenal. Ils se relancent, ils sont pas mal, ils ont eu cette défaite face à City. Bon, finalement c'est difficile hein, face à City, mais c'est vrai que finalement ils sont bien repartis là, les Spurs.
Non, écoute, c'est bien reparti et j'entendais Jonathan en parler, qui parlait du regain de forme de Dele Alli. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec toi Jonathan, c'est un joueur hyper important dans le dispositif de Pochettino et il était franchement, je dirais, en dessous de tout depuis le début de la saison.
Oui.
Franchement, il avait la tête ailleurs, il avait les jambes ailleurs également. Et là, depuis quelques matchs, on le retrouve. On l'avait vu un petit peu contre le Real Madrid, il marque, mais il fait pas des bons matchs. Mais par contre, en championnat, depuis 4-5 journées, on revoit le vrai Dele Alli et le résultat, tu vois les performances de Tottenham. Ils étaient en danger de se perdre un petit peu, de prendre du retard par rapport à Arsenal, mais même par rapport à Burnley. Hein. Et tout d'un coup, les voilà qui se relancent dans ce championnat pour une place dans le top 4. Ils sont à 40 points ce soir contre West Ham. Même si West Ham a gagné avec ce doublé d'Andy Carroll, qui quand même ne nous rajeunit pas, ça devrait le faire contre West Ham à Wembley. Et tu les retrouves à 43 points, donc un point derrière Liverpool, deux points derrière Chelsea.
Ils ont trois matchs de suite à domicile, là, en comptant le match de Cup face à Wimbledon.
Absolument. Et tu vois un petit peu, tu vois aussi les problèmes de forme que peut avoir Manchester United. Tout d'un coup, le combat pour le top 4 le top 4. On va appeler ça comment? On va trouver une nouvelle expression parce qu'on a le champion, OK? On sait qui il s'agit. Et on a ensuite trois équipes. Donc le almost top 3. mais pas totalement parce qu'ils sont pas vraiment dans le top 3 puisqu'il y a pas de premier. Mais il y a de la bagarre et Tottenham, oui, c'est bien repris. Victoire pas tellement étonnante, hein. On sait ce que l'état dans lequel se trouve Swansea aujourd'hui, avec un entraîneur qui est arrivé un petit peu à la 25e heure, avec de gros problèmes pour marquer des buts.
Avec Jordan Ayew en pointe.
Ouais. Il n'est pas le plus ridicule, hein, mais il y a des problèmes de... Il y a des problèmes d'effectifs dans cette équipe du Pays de Galles et puis il y a des problèmes surtout de management au niveau, au plus haut niveau du club. Mais Tottenham en a profité donc ce soir et se replace à un point à 4 points de Liverpool avec un match en moins. Mmh. Ça n'est pas sans importance. Il y a d'autres résultats, Nico.
Juste avant, on va accueillir Andrea qui est supporter de Tottenham qui nous a appelé au 36.
Il doit être biché en ce moment.
Comment ?
Ils ont conquis déjà en Ligue des Champions.
La Juve, Tottenham. Okay. La Juve.
Ça va être magnifique.
Salut
ça.
Andrea.
Quel match ça va être ?
Bonsoir à tous.
Meilleur moment, Andrea. Salut.
Merci, vous aussi.
Bon, alors qu'est-ce qu'on a pensé de ton Tottenham là, pendant cette période des fêtes ?
Écoutez, pas si mal que ça, en prenant la prestation de ce soir, malgré la météo et l'état du terrain, je trouve que le match était bon. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu. Notamment la première titularisation de la saison de Llorente qui remplit son contrat, la deuxième titularisation de Lamela qui retrouve un peu de temps de jeu, l'entrée de Kane, malgré, voilà, on a parlé d'un rhume ou du tombé légèrement malade.
Il a un petit problème musculaire également, il avait une petite un petit problème.
Je suis aussi très content de Davinson Sanchez en défense. Parce que j'avais parlé en début de saison de l'importance de la profondeur de l'effectif. En cas de mauvais début de saison ou de blessure, vous parliez d'Ali il y a pas longtemps, je pense que Eriksen a fait une énorme début de saison, ce qui a comblé un peu ces problèmes-là. La blessure de Toby en défense et Sanchez qui s'intégrait parfaitement à l'équipe, sachant qu'il est arrivé au Mercato cet été. Donc, assez content du match d'aujourd'hui, à l'équilibre, comme vous l'avez dit.
Tu oublies une chose. Tu oublies une chose. C'est le retour d'un joueur absolument essentiel qui était un titulaire indiscutable dans l'équipe de l'année dernière. C'est Wanyama.
Ouais, qui remplace Sanchez à la 60e, ouais. En effet.
C'est vachement important parce que tout d'un coup, tu as ce gros problème.
Il y a quand même du monde à Tottenham, hein, une belle équipe aussi.
Ah, mais quand tout le monde sera revenu, mais c'est pour ça que je dis, ce match entre Tottenham et la Juve, moi ça va être, alors là, je pense qu'on va se régaler, les gars. Et il y en a pas mal où on va se régaler en Ligue des Champions, mais celui-là en particulier. Et Wanyama est un joueur, quand tu en parles avec Hugo Lloris, par exemple, il te dit tout de suite, c'est un titulaire absolu, il n'y a rien à dire, c'est une de nos pièces maîtresses. Il est de retour, ça va simplifier pas mal la situation, surtout avec la blessure de Alderweireld, hein, de Toby. Mm-hmm. Quand tu as quelqu'un comme Wanyama devant, c'est quand même mieux qu'avoir, je sais pas, Winks et Dembélé, ou Sissoko et Dyer. Ça change tout. Ça change tout. Et du coup, tu peux t'attendre à une grosse...
Que devient Serge Aurier, Tottenham?
Et il joue de temps à autre.
Il est mauvais. Faut à sa décharge.
Non. Il joue et Pochettino, fidèle à ce qu'il a été.
Il fait.
Oui, bien sûr. Oui.
Ouais, il tourne pas mal quand même.
C'est l'ancien meilleur arrière droit du monde. Je voulais savoir un peu où il était quand même.
Ben écoute, il a.
Ah, il a pas changé en 2018.
Non, mais c'est quand même l'ancien meilleur arrière droit du monde.
Je veux dire, ouais, c'est ce que je dis. T'as pas changé en 2018.
C'est un mec qui mettait une amende à Dani Alves.
Ah, il prenait des amendes. Mais ça, c'est une autre histoire.
Je sais pas, dans la bouche de la majorité des observateurs de ce pays, il mettait à l'amende tout le monde.
C'est un vrai bon joueur, Henri.
Ah oui, d'accord.
Bah non, mais c'est vrai.
Non, c'est pas vrai. Mais
bon. Ok.
c'est difficile, sachant qu'ils ont Kieran Trippier à droite qui se projette pas mal et qui a
c'est
pas mal
difficile quand t'es l'ancien meilleur arrière droit du monde.
C'est un bon athlète.
Tu passes facile.
C'est un joueur moyen.
Tu t'imposes partout quand t'es aussi fort que lui. Tu t'imposes partout, non? Tu t'imposes devant Trippier que personne ne connaît.
Surtout en Angleterre.
En Angleterre, il est connu, Trippier.
Moi, je l'avais dans mon équipe fut il y a 2 ans, au tout début.
Tu vois?
Trippier, mais bon.
Kieran Trippier, on l'avait donné, avec mon copain Romain Molina, on l'avait donné comme étant une des futures stars de la Première Ligue il y a 4 ans de ça.
Voilà.
Oui, absolument.
Merci, Andrea, de nous avoir appelé.
Merci à vous.
Salut, bonne soirée, meilleurs vœux encore une fois à toi, Andrea. À bientôt. Salut.
Et on regarde juste le potentiel offensif. Là, on a parlé le potentiel offensif de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Putain, c'est pas dégueulasse.
Tiens, il y a eu un tweet là-dessus.
C'est pas dégueulasse, oui.
Ouais, c'est comme d'hab.
Ouais, mais là,
ils ont un peu de génération là pour le coup, mais.
Tu sais, l'équipe d'Angleterre, dans les compètes, c'est souvent une petite allumeuse. Hein. Tu connais un peu, toi, ça.
Je conclue toujours, moi.
C'est Eliezer qui nous dit sur le hashtag RMC Live, j'ose à peine imaginer le potentiel offensif à l'œuvre des Anglais au Mondial. Kane, Sterling, Rashford, Lingard, le tout soutenu par Ali et Barkley. Alors Barkley.
Faut juste que les mecs jouent ensemble, là, parce que là, t'en as cité un paquet qui ont tendance à beaucoup se regarder les pieds, quand même. Hein. Voilà.
Ouais.
Un mot, Philippe, sur le match de demain, le match entre Arsenal et Chelsea. Alors, avec
j'allais te dire un mot sur mon entraîneur préféré et sur un club que j'adore. Et
on n'aura pas le temps, je pense.
Bah, on n'aura pas le temps.
C'était
Simplement dire que Crystal Palace, après un match que j'ai trouvé admirable contre Manchester City, a gagné 2-1 à Southampton. Chapeau. Donc le club qui était condamné après 8 journées est aujourd'hui
qui a réalisé le pire début dans l'histoire de la Première Ligue.
Ouais, absolument.
Après cette journée.
Mais demain, oui, donc on a Arsenal-Chelsea, ce qui n'est pas rien, bien évidemment, puisque on rappelle les positions. Chelsea 3e avec 45 points, Arsenal 6e avec 38 après ce résultat invraisemblable contre West Brom. Et la pire décision prise par un arbitre anglais dans cette saison, mais bon, ça c'est une autre paire de manches.
Et ça va valoir à Wenger une sanction, visiblement.
Je te donnais la poutre.
C'est nerveux, Wenger, en ce moment, non?
Ouais, un petit peu.
Un peu comme Mourinho, ils sont nerveux, tous les deux.
Écoute,
ils aiment pas trop entendre les critiques.
Oui, mais je pense que
surtout quand elles viennent d'anciens grands joueurs.
Oui, mais je pense que celle de Wenger, en l'occurrence, c'est pas toujours que je dirais ça. À cette occasion, les réserves de Wenger ou les critiques de Wenger étaient totalement justifiées. Celle de José Mourinho, ça devient, je ne vais même plus en parler parce que ça me, oui, c'est bon, c'est triste.
Oui, il est en train de se perdre.
C'est triste
il fait
parce
du Mourinho,
que.
Ouais, non, il a jamais fait ça.
Mourinho a toujours été dans la communication victimiste.
Pas à ce point-là.
Mais arrête, Daniel. Ça s'est terminé comme ça au Real. C'est le mythe de la deuxième saison.
Toujours.
Je peux te ressortir les archives, si tu veux. Il a toujours fonctionné.
Ça n'est pas comme ça. Pas du tout comme ça. Il devient pathétique. Il n'était pas pathétique.
Il s'est pris la tête avec toutes les légendes du Real.
Mais oui,
il s'est pris la tête avec toutes les légendes de Chelsea.
C'est parce que les résultats suivent pas, Daniel. C'est tout. Mais au niveau de parano et de débilité, ça gagne pas. Ça frise le pathétisme.
Ça gagne pas. Non.
Nico,
ça gagne pas parce qu'il n'a plus la main, parce qu'il comprend plus, parce qu'il est largué. Parce qu'il est fini.
Moi, je vous dis pas qu'il est
cuit. Le mythe,
il
a dit sur la deuxième saison de Mourinho.
Sa communication, elle connaît par cœur. Au bout d'un moment, tu t'enrayes.
Ah, mais je te dis
exactement. Tu peux en effet écrire et interpréter le meilleur 45 tours de l'histoire de la pop. Et tu le joues 50 fois, c'est super. Par contre, quand tu rayes ça sur le premier sillon.
Mais les gars, je vous dis pas qu'il a raison. Je vous dis qu'il
est
comme ça.
Et que tu répètes ce premier sillon en permanence, là, ça devient hyper chiant. Et en ce moment, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est un truc dont il va falloir qu'on parle. Et ça, je vous donne le rendez-vous, les gars. C'est que moi, je n'en peux plus de la façon dont les entraîneurs critiquent les arbitres. Ça fait partie de mes résolutions.
Et j'en peux plus d'entendre les entraîneurs. J'en reviens à Mourinho, mais à Wenger. Les mecs, Paul Scholes a pas le droit de parler. Thierry Henry a pas le droit de parler. Peu importe et tout. Non, mais la façon dont il répond. Genre, Paul Scholes, je lui souhaite de gagner autant que moi. Même Paul Scholes n'est pas entraîneur. De quoi tu parles? Mais tais-toi. Et laisse-lui le droit de parler à lui comme à n'importe qui, tant que la critique est argumentée.
Comme si les qualités d'un entraîneur se définissaient par son palmarès. Il y a des entraîneurs qui ont le droit d'émettre une critique.
Ces entraîneurs-là doivent arrêter.
Il y a des managers qui ont des palmarès.
Il ne va pas répondre en disant Paul Scholes. Il ne va pas répondre. Non mais. Nico, il y a une façon, au bout d'un moment, si t'es intelligent, quand tu veux faire de la communication, fais de la communication.
Ne dis pas,
moi, Manchester United, on joue mal parce qu'on dépense pas assez. C'est grotesque. Moi, Manchester United, et moi, José Mourinho, je dis à Paul Scholes, quand t'auras mon palmarès, tu pourras parler. C'est grotesque. C'est pas de la bonne communication. Tu veux avoir une communication offensive quand il est à l'Inter, qui se dispute avec tous les entraîneurs du championnat d'Italie. Ça tient la route,
oui,
parce que les entraîneurs du championnat d'Italie. Non,
bah, si.
Non,
écoute-moi,
je vais t'expliquer.
C'est parti du
quand
truc.
Il le fait, tous les entraîneurs du championnat d'Italie, comme c'est un pays qui a donné les plus grands entraîneurs,
il y a un débat. Il y a un vrai
et
débat.
Et lui, il dit
arrêtez
de donner la leçon. Moi aussi, j'ai le droit d'exister. Et il est à l'Inter à une époque où, et notamment en Coupe d'Europe, il n'est pas dans les favoris. Donc, ça lui va de jouer ce rôle-là. Quand il le fait avec Porto, quand il se révèle à Porto. la première conf où on apprend qui est José Mourinho. C'est match avant Old Trafford, donc face à Manchester United, où ils vont, où il y a le but de Costinha à la dernière seconde, là. Et où il explique en conf, et c'est là qu'on découvre le personnage, il dit, ouais, et donc, bah non, mais nous on est là, mais, de toute façon, son Manchester United est déjà qualifié, mais on vient, ça va, ça colle! Il est pas dans le fameux. Quand il arrive au Real au début, ça commence un petit peu déjà, hein, il est quand même dans le club le plus puissant du monde. Et qui fait la victime et le chouineur derrière le Barça qui lui met des claques.
C'est exactement ce que je te disais.
Ça marche pas.
Mais c'est exactement ce que je te disais. Daniel, je ne te dis pas.
Si t'es intelligent, tu t'adaptes.
Je ne te dis pas que c'est intelligent et que ça fonctionne. Je te dis que Mourinho, en période de crise, a toujours l'attitude. Mais si, mais ne dis pas non, laisse-moi terminer. Il a toujours la posture de la victime, il a toujours fonctionné comme ça. Je te dis pas que c'est la bonne méthode. Je te dis qu'il a toujours fonctionné. Je te dis pas que ça marche,
L'attitude victimaire ne peut pas marcher dans des clubs du standing
bien
du Real Madrid.
Je vous dis
pas
que ça marche, je vous dis qu'il a tout fait. C'est compliqué.
Il vient sans cesse dans les deux plus grands clubs du monde.
C'est
avec l'histoire, le passé, la prestance.
On dépense pas
assez. C'est difficile.
Mais Mourinho, en termes de com, il fait exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire que son équipe joue mal, tout le monde parle de jeu, et au final, il allume des feux, et tout le monde ne parle que de ses embrouilles avec Scholes, avec machin.
Dans les vestiaires après City.
Mais dans les vestiaires, ça prend plus, ça marche pas.
Je te parle pas du vestiaire, je te parle
Mais également de la leçon de football, tout le monde en parle.
Mais ce qui fait les gros titres, c'est les embrouilles.
Mais qu'est-ce que ça peut foutre?
Je te dis pas, c'est que lui, il est content.
Mais il est pas content. Arrêtez de croire qu'il est content. Son équipe se fait marcher dessus. Il est à 15 points alors qu'il était donné dans les favoris.
Demain, 20h45, Arsenal-Chelsea.
Arrêtez de croire que ça marche.
Hey, il est dans cet after, il démarre bien. Bonne soirée, mon Philippe, merci.
Allez, bonne soirée à vous, les gars.
Ciao, Philippe. Ciao, ciao, merci. Ah, ça y est, on est bien parti les mecs là. On est bien ou pas? C'est une petite pause, on vient juste après ça avec vos vœux! Avec vos vœux au 32-16 sur le hashtag RMC Live également. Vous voulez quoi pour votre club, pour votre nation, pour votre pays, pour ce que vous voulez? C'est une année de Coupe du Monde. On vous attend au 32-16, à tout de suite pour la suite de l'after avec Daniel Riolo et Jonathan McCarty.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo et avec Jonathan McCarty, avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Rebonne année. Bonne année si vous nous rejoignez,
pas
les gars.
Signe.
Comment?
Pas fait ton signe.
Hashtag RMC Live, bien entendu. Tiens, pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live, bien sûr. T'as bien ou pas ça, toi?
Connaissez pas.
Bah, Ali Benarber est très fan.
Connaissez pas.
Sache-le. Voilà, les deux doigts collés comme ça.
Moi, je suis prêt hein, pour la régalade.
Sport,
hein.
Ah, on y va, on y arrive pour les vœux.
Attention.
Tiens, Tocardino sur le hashtag RMC Live. Daniel Riolo n'a donc pas pris la bonne résolution d'arrêter de couper la parole à tout le monde. Et bah voilà. Pas moi qui le dis, c'est lui. Ah ben voilà, bravo Daniel. Il y a pas mal de messages très sympas. Vous aussi, vous nous avez manqué, bien entendu. Ouais, non, je vais arrêter, je vais pas le dire celui-là parce qu'il était trop compromettant, bien entendu. Aujourd'hui, voilà, je peux pas. On attend vos vœux pour 2017. Voilà, quels sont vos vœux 2017, 2018, ça passe tellement vite tout ça. Mais avant, il y en a un à qui également on va souhaiter bon vœu. Ah. Mais aussi un joyeux anniversaire. Il est immortel, il est increvable. C'est Benjamin Nivet.
Bonsoir, merci.
Salut Benjamin.
Bienvenue aussi à tous.
Merci.
Bonsoir Benjamin Nivet.
41 ans.
Vous n'avez pas prévenu qu'on avait un invité?
Ah bah je te le dis, regarde, ça y est, c'est sur
41
c'est cadeau.
Ans.
C'est cadeau, c'est
pas. Oh là 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 là.
Bon, comment ça va Benjamin?
Bah ça va. Hein,
ça nous fait
va,
plaisir que tu sois là.
Ouais, c'est un peu tard pour moi parce que je me couche plus tôt d'habitude, mais je fais une exception. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc 41 ans et... Et ça fait plaisir de...
Un bout de gâteau, un verre de champomie et au lit.
Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais en plus, je sors un peu de la grippe, donc c'est pas le top, là.
Ah bah c'est gentil d'être avec nous, alors, Benjamin. Merci, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018, Benjamin?
La santé, parce que c'est vrai que je l'ai eu pendant toute ma carrière. Et là, cette saison, c'est vrai que j'ai été blessé à peu près 3 mois là, avec une blessure, une fracture au niveau du pied. Donc j'espère que sur ces au moins ces 5 prochains mois qui viennent, je serai en bonne santé, que je vais pas avoir de blessure et que je vais pouvoir faire une meilleure deuxième partie de saison.
Que tu vas pouvoir jouer, surtout pour qu'on te voit sur le terrain, qu'on te voit mettre des belles passes, qu'on te voit éclairer le jeu de Troyes.
Ça marche, merci beaucoup.
Et est-ce que tu es en fin de contrat, bon t'as 41 ans, t'es en fin de contrat en fin de saison, t'as envie de continuer ou alors tu sais pas encore, t'attends de voir?
Ouais, je sais pas, là, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années, 4-5 ans que je vois pas plus loin que la fin de saison. Et puis comme ça me met pas du tout de stress, je pense, à jouer, essayer de prendre le maximum de plaisir. Et puis je ferai le point après à la fin de saison. C'est vrai que bon, mes heures sont comptées, donc je me doute bien que peut-être que ça peut être la dernière, mais en tout cas j'y pense pas pour le moment.
Alors j'ai lu ton interview très sympa dans l'Est Éclair, aujourd'hui. Alors dans laquelle c'est tes proches qui te posent des questions, c'est pas mal. Hein. Il y a ses parents, il y a son épouse.
Moi, t'es sûr de pas avoir des questions compromettantes.
Non, au contraire, c'est plutôt marrant. Et alors il y a une petite confession. Je sais pas si tu l'as lu cette interview, Daniel.
Ah non, l'Est Éclair, je suis désolé, je suis pas arrivé dessus. Là.
Alors je crois que c'est ton cousin qui pose une question. Si t'aurais aimé jouer dans un club plus huppé, tu réponds le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est le club où j'ai toujours été fan depuis mon enfance, quoi. Donc j'allais souvent au parc. À l'époque, c'était Stitch. Donc ça remonte. J'allais voir le Paris Saint-Germain quand j'étais gamin. Donc
à quelle époque tu voyais c'était qui les joueurs que tu voyais?
Ça fait Susic, ouais.
C'est dire
c'était vieux.
En plus Susic par rapport à même ton rôle et ta façon de jouer, forcément quelqu'un qui t'inspire, évidemment.
Bah ouais, c'est, il m'a inspiré, les numéros 10.
Bah oui.
Et d'ailleurs, j'ai essayé de reproduire un petit peu ce qu'il faisait, quoi.
Bah oui.
C'est vrai que Susic, pour moi, c'était une référence. Ouais.
Alors, t'as un autre point commun avec Daniel, toujours dans cette interview dans l'Est Éclair. C'est une question que te pose ta filleule Manon. Alors, qui lui dit est-ce que tu te verrais faire un autre sport à haut niveau? Et Benjamin répond que quand il était gamin, il aimait autant le tennis que le football. Tu savais ça?
Ça te fait
un point commun avec Daniel Riolo, Benjamin.
Un vrai point commun, oui, ça oui.
Il faudra faire une partie alors.
Ah, le défi est lancé, l'after sert à ça également, Benjamin.
Ça dépend combien tu joues, hein.
Je joue contre des 15-5, 15-4, voilà, c'est à peu près mon niveau généralement.
Bon, on va gagner ça, les mecs, ou quoi?
On peut même emmener Jérôme Roten, hein, qui dit qu'il joue à ce niveau, mais on ne voit pas beaucoup sur les cours.
Ouais, donc j'ai dû choisir quand j'étais jeune. Mon père m'a dit de prendre un sport sur les deux, comme je jouais bien sur les deux, et j'ai choisi le foot par rapport à la fête du sport collectif. Donc je me sentais mieux dans un sport collectif que d'aller jouer tout seul sur les terrains de tennis, quoi.
Un dernier mot sur l'Estac, Benjamin. Quel vœu tu souhaites à l'Estac? Alors il y a pas mal de rumeurs, hein, concernant, et d'informations également circulant concernant un rachat du club. Quels sont tes souhaits pour l'Estac pour cette année 2018?
Pas forcément le maintien, je crois que c'est le vœu depuis ce début de saison où on a vraiment, le club a fait vraiment ce qu'il faut pour cette année qu'on arrive à se maintenir, et ce serait bien pour rester dans l'élite et puis continuer à grandir, et donc c'est vrai que c'est le maintien, c'est la priorité du club.
Benjamin, j'ai une question. Une fois que ça sera terminé tout ça, et qu'est-ce que vous voyez faire pour votre reconversion?
Consultant.
Entraîneur, rester dans le foot, ou autre chose?
J'ai envie de rester dans le foot. Non, j'ai envie de rester dans le foot parce que c'est ma passion. Après, j'ai envie de rester aussi proche du club. Donc, je ne sais pas encore si ce sera soit me diriger vers un métier d'entraîneur chez des jeunes au départ, ou alors dans le management avec auprès du président. Donc voilà, c'est une des choses à laquelle je suis en train de parler, quoi.
41 ans, vous pourriez faire une Juan Sebastián Verón. Il est resté à l'Estudiantes jusqu'à ses 40 ans, qui est devenu président du club et qui a eu un rôle à la Fédé.
Et qui a rechaussé les crampons,
à 42.
C'est incroyable.
Ouais.
Et tu lui ressens
chaud aussi.
Exactement, t'as la même coupe de cheveux que lui. Merci Benjamin d'avoir veillé, d'avoir été
avec
nous.
Merci,
salut, joyeux anniversaire. Merci. Bonne année à toi. Voilà, et la santé surtout à toi et à tous tes proches. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Voilà, c'était Benjamin qui était avec nous dans l'after. Voilà, sympa,
magnifique.
Sympa, 41.
Magnifique.
Qui est né le même jour que Basile Boli. Et le même jour que Domingos, surtout. Tu viens de Domingos ou pas? Domingos Pacientia.
Bon anniversaire à Basile Boli, alors.
C'est vrai, tu t'en souviens vraiment ou tu
veux... Domingos, le joueur de la sélection du Portugal.
Ouais, l'avancante, là. Buteur du FC Porto, dans les années 90. Bref. Et c'est l'heure des vœux, messieurs. Voilà, les vœux pour vos clubs, les vœux pour 2018, et les vœux tout court d'ailleurs. Est-ce que t'as un vœu, toi, pour cette année, cette nouvelle année, Daniel?
Ah non, moi je vais faire mieux, moi. Alors, moi je vais faire mieux, parce qu'on s'est fait un petit défi avec Jonathan tout à l'heure. Moi j'ai promis que ce soir, dans les vœux, je fais croquer un max de supporters. J'ai un programme. Non. Moi je te fais. Moi j'ai, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 clubs. 8 clubs, je les fais croquer. À la fin, les supporters me disent merci, c'est le kiff ce que tu nous proposes.
Oh là là.
8 clubs. Ah, je crois que c'était 8 clubs en un vœu.
Non. 8 clubs, je leur souhaite. À 8 clubs, donc à 8 catégories de supporters. Je leur vends un truc qui est possible. Je vends pas un truc bidon.
Je crois que le défi, c'était un vœu 8 clubs.
Je suis capable d'en rendre heureux 8. Combien t'en rends heureux?
Moi, je crois que le défi, c'était un vœu 8 clubs.
Ah non,
un vœu tous les clubs. Un vœu plus de clubs. Un vœu, je peux rendre content tout le monde. C'est pour ça que je reste sale des
C'est quoi?
Vas-y, donne-le alors.
C'était tout bête. C'était juste dire le truc, le vœu débile de dire que la France progresse, le nombre de points au classement UEFA de la France progresse.
Oh là là,
la
France.
Moi,
je suis contre la guerre. Moi, je suis contre la guerre parce que ça fait des morts.
Oh, le salopard en haut, il me dit un vœu pour rendre tout le monde content. Alors moi, je t'ai dit, bah,
t'es pas fort pour les cadeaux, toi.
Non, mais écoute bien, le salopard, il me dit un vœu pour que tout le monde soit content. Je l'ai trouvé.
Attends, excuse-moi, on s'est pas compris.
Voilà.
Pardonne-moi.
Sinon, je vais faire un programme de présentiel comme ça.
Moi, j'ai un gros gâteau.
Vas-y, fais péter avant d'accueillir. Vas-y, avant d'accueillir Julien.
Attends, on va le faire ensemble.
Vas-y.
PSG.
Ligue des Champions.
Moi, je serais pas, je suis désolé.
Attends, c'est quoi, va le faire.
On doit en rendre heureux les supporters, Jonathan.
Daniel, viens accueillir Tanguy, supporter de Lyon qui est avec nous, il va faire les jeux avec nous.
On va rendre heureux, on va au bout.
La demi, la demi. Tanguy, t'es avec nous ou pas? T'es là, Tanguy?
Oui, je suis là.
Bonne année, mon gars.
Bonne année. Je crois que ça me fait un peu mal au cul de dire au souhait d'écouter
avec les Français. On s'est rendu heureux.
Ton année débute à merveille, Tanguy. Elle débute par l'after. Viens, on va écouter les vœux de Daniel et après on écoutera le tien, Tanguy. Ok.
Donc PSG, Ligue des Champions. Ok, Lyon.
Ligue Europa.
T'es d'accord, Tanguy?
Ouais, je suis d'accord, ouais.
Monaco?
J'ai aussi mis dans mes vœux.
C'est le championnat, non?
Championnat des champions. Monaco. Non, le titre, ils sont pas
là où
ils sont.
Oui, d'accord,
c'est réaliste.
C'est des vœux.
Et je leur souhaite.
T'as dit que ça soit réaliste. C'est pas réaliste.
Bah, c'est pas complètement dingue, c'est encore c'est possible.
Allez, arrête, c'est pas réaliste.
Mais non, c'est possible. C'est pas, bon, Monaco, le titre. Okay. Marseille.
La Ligue des Champions.
La Coupe.
Mais quelle Ligue des Champions? Et il la joue pas.
Le podium.
La qualif en Ligue des Champions, ça, je veux dire.
Troisième place.
Oui, c'est ce que je dis.
Plus, je leur mets un petit plus à l'OM.
Un attaquant.
Coupe de France, ils l'ont pas gagné depuis 89. Coupe de France, troisième place. Il faut que tout le monde soit heureux au mois de juin. Okay. Je veux que tout le monde soit heureux.
Ok, vas-y.
Nice.
Avec un but de Mitroglou au final, me dit Cyprien.
Nice.
Quatrième.
Coupe de la Ligue.
Une coupe, là, après deux ans.
Il nous reste quoi? Nantes.
Une qualif en Coupe d'Europe.
Cinquième.
Ouais, c'est ça.
Europa League, cinquième. Cinquième. Saint-Etienne.
Le maintien.
Compliqué.
C'est quoi, c'est
le maintien?
L'Intertoto, il n'existe plus, c'est con.
Le maintien, mais au terme d'un barrage avec flippés. Match retour à Geoffroy Richard en feu.
Ils sont tellement flippés là que le maintien.
Ah oui, et là, match au moins, tu peux pas leur souhaiter plus, il n'y a rien à croquer. Il n'y a pas à croquer de plus. Bordeaux.
Le maintien aussi.
Alors, ils vendent Malcolm 35 millions.
Ils vendent des sous et tout.
Attends, j'ai cherché des trucs pour faire plaisir, tu peux pas leur souhaiter mieux, ils sont nuls.
Voilà.
Donc voilà, et moi là je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubs.
Je vais faire un vœu à Guingamp.
Tu vas souhaiter 4 plausibles.
Je vais faire
à Guingamp,
un vœu à la Jonathan Macardy. Mais je souhaite que tout le monde se maintienne.
C'était pas ça, non, mais
moi. Moi là j'ai fait croquer tout le monde dans mon gâteau. Là. Tout le monde est content. T'imagines? Et évidemment, après les autres ils sont tous contents parce que la France gagne à tout
le monde.
Moi j'ai dit, je vais en entendre parler.
Mes vœux c'est simple. Et c'est que les esthètes du football que sont Manchester City et le Napoli, ils gagnent quelque chose. Manchester City gagne la Ligue des Champions, le Napoli soit champion d'Italie.
Déjà, ils vont être champions d'Angleterre.
Le deuxième vœu.
Je prends aussi, mais je me suis arrêté aux fans français.
C'est juste parce que je prends de l'assumer que ça me fera un peu mal au cœur que Paris gagne. Que l'OM gagne l'Europa League, évidemment.
Moi, je veux faire croquer tout le monde.
Que l'OM gagne
la Ligue des Champions, monsieur.
Que Carlos Tevez retourne à Boca et qu'il gagne la Libertadores avec un but de Tevez sur une passe de Gago, ce qui voudrait dire qu'en plus, Gago serait revenu de sa terrible blessure. Et enfin, je pense que c'est le plus important. Que la France fasse une belle Coupe du Monde, mais surtout que le football français ne s'inspire pas de la stupidité ambiante qui règne dans la société française actuelle et qu'on s'épargne de polémiques bêtes, inutiles et crasses, comme on a pu le voir par exemple avec Antoine Griezmann qui s'est fait tomber dessus pour pas grand chose.
Tanguy, t'es toujours là ou pas?
Oui, je suis toujours là. Ouais.
Alors, c'est quoi tes vœux, toi, supporter de l'OL?
Alors, moi, j'en ai.
Ça t'a plu les miens, Tanguy, là ou pas? Tu prends le truc que je te souhaite?
Oui, c'est pas mal.
Mais dans son vœu, Lyon, non. Parce que dans son vœu, Lyon ne se qualifie pas en Ligue des Champions.
Mais si, en gagnant la
C3. Ah oui, c'est vrai.
Mais bien sûr, c'est vrai. En gagnant l'Europa League, ils vont en Ligue des Champions.
J'avais oublié celle-là, oui.
Donc, ouais, non, moi, c'est un peu plus. C'est un peu plus précis, c'est-à-dire que j'aimerais bien que l'OL fasse un beau parcours en Europa League, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire.
T'es gentil, je te souhaite de la gagner. Arrête, il est marrant.
Attends, laisse-le finir. Attends,
Non, mais par exemple, l'année dernière, ils ont fait une demi-finale. Cette année, en plus, la finale est à Lyon, donc ce serait bien qu'ils, ouais, qu'ils fassent bonne figure en Europa League. Ensuite, j'aimerais bien que l'OL ramène une coupe. Ça fait quand même plus de 5 ans que Lyon, ils n'ont rien gagné, en fait.
Ouais, toi, tu ne veux pas partager avec les autres. C'est tout pour
ça
toi.
Commence à faire, ça commence à faire un peu trop long à mon goût. Et enfin, mon vœu le plus cher...
Et que Saint-Etienne se maintienne, bien sûr.
Voilà, que c'est vrai, voilà, un petit coucou pour les voisins. Non, mon vœu le plus cher, c'est la venue d'un entraîneur de haut niveau à l'OL.
Oh, c'est
alors, voilà, ça commence... Genesio, j'en ai marre. Et c'est-à-dire un coach qui est confirmé, qui tire le maximum de ses joueurs, qui inculque un vrai style de jeu à l'équipe, tout ce que Genesio, je trouve, ne fait pas. Et je pense que quelqu'un comme Marcelo Gallardo, donc... Jonathan, il pourra confirmer.
Mais attends, t'avais un autre vœu de dingue, toi, pour 2018.
Ah bon ?
Ça concerne Benzema.
Voilà, Benzema. Oui, ça, c'est pour faire plaisir à Daniel et j'espère que Fred Hermel, il pourra faire marcher ses réseaux. Ouais, ça serait bien que Benzema, que Benzema, il revienne à l'OL. Ça peut être sympa. Il est un peu le mal du pays.
Mariano, il est super bon, Mariano.
Mariano, il est bon, mais
dans
un profil plus différent de celui de Mariano.
Les deux pourraient jouer ensemble.
Benzema, ça me paraît bien.
Ouais. Et Tanguy, dis donc.
T'es
de retour chez tes parents, là. Il y a le Tanguy 2 qui sort, là.
Je l'attendais, celle-ci, quand même.
Là, c'est la suite. Alors, en 2018, McCarthy se lance dans la vanne.
Ouais, référence culturelle.
Non, mais il y a le 2 qui sort, c'est tout ça.
Attention, référence culturelle, quand même.
Ah, il m'ont mis France, me dit-il.
C'est-à-dire?
Oui, c'est vrai.
Merci, Tanguy, de nous avoir appelé.
Eh ben, pas de soucis. Merci à vous.
À bientôt, et encore une fois.
Je voudrais pas mes vœux, là, sur les 8 clubs qui croquent, là, on trouvera pas mieux.
Bah écoute, en tout cas, on vous attend, c'est un supporter de ces clubs-là, ou d'autres, d'ailleurs.
Personne ne peut se plaindre de ce que j'ai annoncé, là. Franchement, là.
Tiens, accueillons Julien, supporter de Rennes, qui nous a appelé également au 32-16. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Et on a félicité. Bonne année Julien.
Merci, bonne année.
Bonne année.
Meilleurs vœux. Quels sont tes vœux pour cette année 2018, toi, supporter du Stade Rennais?
Ah mais je suis absolument scandalisé. Daniel, tu peux pas dire que tu fais croquer tout le monde.
Il voulait dire que Rennes était en finale et qu'il
Julien, là, franchement, je comprends vraiment. Tu as raison, moi j'ai fait croquer 8 clubs, je peux pas faire plus, quoi.
La Coupe de la Ligue, on la veut bien, nous on est prêts à tout prendre. Hein.
Bah, je l'ai donné à Nice parce que ça fait 2 ans qu'ils jouent bien et tout. Je pensais que c'était un peu plus correct vis-à-vis d'eux que vis-à-vis de
correct.
Non, mais ils ont plus progressé que Rennes.
Oui.
Rennes, ce qu'il faudrait, c'est je vais le dire, que vous terminiez bien, que le duo Létang-Lamouchi fonctionne, que vous réussissiez à liquider tous les joueurs là, de votre effectif pléthorique et qu'on reparte sur une base saine. Tu vois, ça c'est crédible comme vœu déjà pour vous.
Ouais, mais honnêtement, aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu de ça. On en a marre des bases.
C'est la base, toi, tu veux un titre. La base, c'est déjà de construire, hein, vieux.
Ouais, mais dans 46 ans, qui s'en souviendra? Nous, on veut un titre maintenant.
Tu veux croquer direct le gâteau de l'avoir fait, excuse-moi.
Les projets, les années de transition.
Allez, mon vieux, tu vas pas avoir le gâteau avant de le mettre au four.
On n'a jamais vu des équipes sur un petit peu de réussite, un petit peu de chance, là.
Ah, tu veux un petit goût de chatasse, là, vite fait?
Bah, on est déjà en quart de finale contre Toulouse. Bon, avec le talent qu'on a, on est capable de faire sauter. On est capable de battre le PSG en Coupe de France et de sauter après un contre Quevilly ou
Julien, je suis désolé. Tu veux que je vire Nice là, que je te mette Coupe de la Ligue ou pas à la place?
Les Niçois viennent de jouer deux années de suite la Coupe de France.
Ouais, t'as raison. Attends,
tu changes, Daniel?
Je vire Nice là, je fais croquer les Rennais.
Ah, ça c'est sympa. Ça.
Désolé les Niçois, mais.
Et
bon,
donne la Coupe de France à Nice.
Vous avez joué appelé depuis la Coupe de France à Nice?
Non, je la donne à l'OM avec la 3ème place.
Bah, l'OM, ils ont déjà la 3ème place, puis la Coupe de France à Nice, tu vois.
Excuse-moi, je voulais te faire croquer un peu plus. Coupe de France à Nice, puis ils sont plus qualifiés.
Dans ces cas-là, on la prend la Coupe de France, nous, hein.
Moi, qu'est-ce que tu peux ajouter à l'OM qui ferait bien plaisir?
Non, alors, on va.
Le retour de Gignac. Vous savez qu'il arrive en fin de contrat. Vous savez que Gourcuff est en fin de contrat aussi à Rennes.
Le retour de Gignac à Marseille.
Non, t'as raison, il faut faire croquer un 9ème club.
Voilà.
Alors, ce que je vais faire, je vais faire 3ème place pour l'OM seulement.
Et donne la Coupe de France.
C'est vrai qu'on n'a rien dit sur Strasbourg, hein. Gilbert va faire la gueule, les mecs.
Maintien, suffit. Bon,
okay,
maintien pour.
Ok,
d'ailleurs. Et Rennes Coupe de France. Voilà. Comme ça, je fais croquer encore plus.
Ah, parfait. Là, c'est le rêve, là. Coupe de France. Moi, j'achète.
C'est à 9 là, qui croque.
Mais par contre, il faut quand même battre le PSG et après passer pas mal de tours.
Vieux, c'est dimanche soir. Hein, voilà, les mecs, ils sont encore en vacances, là. Faut en profiter. Hein. S'ils rentrent de vacances en tong et ils vous claquent le beignet, c'est la honte pour vous.
Merci en tout cas, Julien, de nous avoir appelé.
Salut,
merci
Julien.
À vous, bonne soirée.
Meilleurs bonne soirée, Julien. À très vite dans l'after. On va faire une petite pause. On revient dans quelques instants avec les infos du jour. Le mercato commence à frétiller, messieurs. Il n'y a rien de folichon. Il y a pas mal de rumeurs. Il y a pas mal d'infos également. Il y a même des choses qui sont déjà faites. Et on en parle juste après ça.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Et nous sommes toujours avec Jonathan McCardy, avec Daniel Riolo, avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, Alexane. On est ravis de vous retrouver, nous dit-elle. Bah, nous aussi, on est ravis.
Bah oui,
de
parce qu'elle est là tous les soirs. Elle.
C'est vrai qu'elle est là, très très fidèle.
On embrasse Alexane. Alexane.
Une fidèle, voilà, fidèle auditrice de
l'OM. Sportrice de l'OM, de Lorient.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que tu la connais d'ailleurs.
Non, parce qu'elle est là tous les soirs et qu'elle nous envoie tout, elle tweet toute la soirée pendant chaque émission.
Voilà, Julien qui nous dit merci de m'avoir écouté, d'avoir échangé nos vœux. Que les dieux de la galette saucisse soient avec toi. Voilà, c'est pour le supporter du Stade Rennais. Les petites infos du jour.
On l'embrasse aussi à Jérôme Thomas.
On pense aussi à Jérôme
Thomas. On l'embrasse.
Bon, les Bordelais font la gueule parce que, souhait, j'ai juste mis Malcolm 35 millions. Ouais, je suis désolé, je peux pas donner à tout le monde.
Mais 35, t'es radin en plus. Attends, avec le marché actuel, c'est 50 patates.
Ok, 50 patates.
On rajoute 15 millions.
Ouais,
Daniel rajoute 15 millions.
Du moins qu'ils sont contents, même si je peux pas les faire croquer plus. Là, j'ai donné à tout le monde.
Ouais. Bon, ça va aller. Petite info SFR Sport, messieurs, le PSG discute et ça négocie même avec Lassana Diarra.
Bouclé.
Ça pourrait se finaliser cette semaine.
Je t'annonce que c'est bouclé.
Ah, ouais. Alors c'est pas encore signé, encore des détails à régler. Il y a un contrat d'une durée d'un an et demi ou de deux ans et demi. Encore, c'est pas encore décidé. Ça fait partie justement des détails. Alors vous savez que l'international français avait été contacté par pas mal de clubs. Il y avait United, Milan, Galatasaray, Fenerbahce. On a parlé de lui également du côté de Saint-Étienne. Il était aux États-Unis ces derniers jours et donc ça pourrait se finaliser dans les prochains jours, donc entre Lassana Diarra et le Paris Saint-Germain. Bonne pioche pour le PSG, les gars.
On verra.
Je sais pas trop.
Pas obligé d'avoir un avis sur
tout. Pas dans quel état il est, donc
voilà.
Plutôt que de se prononcer sur un truc qu'on ne sait pas, on va juste regarder, on va attendre.
Interview dans les Échos aujourd'hui de Jacques-Henri Hérault. Je sais pas si vous l'avez vu.
Putain.
Président de l'Olympique de Marseille, alors qui est revenu sur les quatre piliers du projet de l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est la formation avec une future école de foot. Le deuxième, c'est, je cite, inaugurer un lieu ludique sur l'histoire du club. Troisième point, renforcer la présence de l'OM dans la ville comme facteur de cohésion sociale. Et enfin, le stade. Même si ce stade est magnifique, dit Jacques-Henri Hérault, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Voilà, il y a des problèmes de son, d'éclairage, d'accès également. Et il voudrait aussi des offres qui réunissent le côté sportif et les spectacles. Alors il prend l'exemple notamment les concerts de soprano. Voilà, on peut pas être abonné à l'OM et avoir par exemple une ristourne pour aller voir les concerts de soprano au Stade Vélodrome.
Réduire les supporters marseillais à écouter soprano, c'est quand même.
Non, mais c'est un exemple.
C'est quand même sûr. Voilà. Non, mais écoute,
pourquoi tu bouffes en fait on évoque cette interview.
Non, dans son interview, c'est comme d'hab. Le fond est bien dans ce qu'il raconte. Je trouve que depuis qu'il est arrivé, dans tout ce qui est structuration de l'institution marseillaise. Il a fait des très belles choses, la formation, la structuration avec les partenariats, avec les clubs locaux, là tout ce qu'il nous explique là, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire à l'OM depuis des années. Mais moi j'aime pas trop le ton, j'ai toujours un peu de mal avec le ton qu'a Jacques-Henri Hérault, notamment t'en as pas parlé, mais dans les Échos il y a une petite phrase où encore une fois il nous présente McCourt comme le sauveur qui a sauvé l'Olympique de Marseille d'un cataclysme quoi, à la limite. Enfin c'est pas le cas, c'est pas non plus vraiment le cas. Il a pas besoin à chaque fois de justifier en quelque sorte de vouloir légitimer McCourt comme propriétaire du club. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai à chaque fois que je l'entends parler et que je l'entends prendre la parole. Donc moi, j'aimerais juste qu'il continue à nous parler de factuel, parce qu'il y a des choses
qui sont
pas très bien.
Mais c'est ça qui est bien dans cette interview.
Parce que ce que je trouve que, mis à part, alors, sur la politique sportive, j'ai été assez critique. Je suis toujours un petit peu sceptique par rapport à ce qui se fait. Mais dans tous les à côté, je trouve que c'est parfait ce qu'ils font. Mais voilà, le discours, un petit peu, peut-être, être un peu moins dans la complainte.
Alors ça change quand même de l'équipe.
Juste avant les vacances, dans l'équipe, la transformation de champion de project en win-win project. Genre je chiale, j'ai pas mes pénalties.
C'est cette interview plus intéressante.
J'ai pas mes pénalties. Oh là, il a tout le temps des pénalties.
Eh ben je suis désolé.
Ce qui est faux, en plus, ce qui est complètement faux. C'est factuellement faux.
De quoi c'est faux? Que Marseille a pas de pénalties?
Et que Lyon en a plus, par exemple, pourquoi il s'attaque à Lyon? Quel est le rapport de s'attaquer à Lyon?
Parce que c'est pas. Mais
c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un complot international contre l'OM?
C'est quoi
cette démago pour flatter le petit supporter? C'est quoi? Ça rime à quoi de faire ça? Ça rime à quoi? Alors on me dit, quand on lasse le fait, je trouve pas ça plus intelligent. Je trouve pas ça plus intelligent.
Ça flatte le supporter.
Et donc il faut flatter le petit supporter avec sa petite mentalité de complotiste. On est obligé de faire ça.
Je pense que Jacques-Henri Hérault, un des déficits de Jacques-Henri Hérault qu'il a depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est de pas vraiment incarner l'esprit marseillais.
Et donc l'insulte, c'est que le Marseillais doit forcément être un débile à qui tu dis.
Laisse-moi finir, putain. Mais non,
arrêtez,
c'est pas ça.
Arrêtez.
Le fond du discours, il est un peu sot. Mais moi, ça m'a fait un peu plaisir. Ça m'a rappelé les plus belles heures des passes d'armes entre Pape Diouf et Aulas. C'était bête dans le fond, mais ça faisait plaisir. Ça flattait un petit peu le côté identitaire.
Moi, je trouve ça.
D'accord, c'est sot. Mais en tant que
supporters. Jonathan, on a déjà eu ce débat. Voilà. Moi, quand je vois comment ça peut partir en sucette dans certains pays, notamment du sud de l'Europe, franchement, ça apporte que dalle. Hein. Sincèrement, c'est juste attiser le clubisme à deux balles, l'excès et la violence.
Mais à quoi ça sert?
Dans tes vœux tout à l'heure, tu nous dis que tu veux pas de violence, tu veux des trucs intelligents et tout, et tu veux cautionner ça.
Et tu cautionnes la bêtise du propos.
Mais Lyon est président.
Sur le même niveau, ce qui s'est passé à Griezmann et ça, par exemple. Tu vois,
mais c'est pas ça dont je parle, mais ça fait, c'est aussi des actes. C'est le caution de la violence.
Ça participe de la même bêtise.
Je pense qu'il en avait besoin dans la construction de son personnage de président. Après te dire que c'est bien,
c'est
intelligent, non.
Moi je dis que c'est indéfiniment réduire le supporter marseillais parce que c'est toujours avec l'OM et tous les présidents font la même chose. C'est tout le temps l'impression que le supporter marseillais, par essence, doit être un teubé du comptoir, que tu entretiens dans la victimisation permanente de tout le monde nous en veut et de on dérange. Mais explique-moi pourquoi l'identité du supporter marseillais doit être entretenue dans ça.
C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Dans la construction de son personnage et de son identité en tant que président,
il descend le truc qu'il fait, c'est ça.
Dans la construction de son identité et de sa posture de président de l'OM, je sais que cette sortie, il en avait besoin. Je te dis pas qu'elle était intelligente. Je te dis pas qu'elle était nécessaire.
Messieurs, accueillons Hicham, supporter de Marseille. Alors, ce qu'il en pense, tiens, Hicham, justement. Salut, Hicham.
Salut, les gars.
Meilleur en vœu, Hicham.
Meilleurs vœux à vous tous, les gars.
Une belle année à toi, la santé, Hicham. tout ça, Hicham. Alors, t'en penses quoi, toi, de cette interview de Jacques-Henri Hérault?
Bah, je pense qu'il voulait mettre fin à la passe d'armes qu'il avait avec Aulas depuis son entretien à l'équipe. Hein.
D'ailleurs, Aulas a tweeté, il l'a félicité pour cette interview.
J'ai vu le tweet de félicitations. Moi, je pense que Hérault, il doit sortir de cette guerre avec Aulas. Ça n'a aucun intérêt pour le... Oh, mais ça n'a aucun intérêt pour la suite, hein, je parle. Pape Diouf, c'était un spectacle. Dacier, c'était un spectacle.
Non, Dacier, c'était rien du tout.
Oh, Dacier, il y a eu quand même des petites frictions. Maintenant, moi, je pense que pour l'intérêt du club, pour l'intérêt de l'OM, faut sortir de ces guéguerres. Aulas, ça fait 15 ans qu'il est, il est champion en communication. Il est champion de France en communication. Faut sortir de ça. Si Hérault veut sortir plus intelligent, et comme je suis d'accord avec Daniel Riolo, ça sert à rien de flatter le supporter dans la bêtise et dans le fait qu'on dise oui, on est victime. Non, on n'est pas victime. C'est la loi du football. Il y a des erreurs d'arbitrage à tous les matchs, à tous les niveaux, en Champions League, en Coupe du Monde, en Ligue 1, en Première Ligue, en Liga. C'est comme ça. Maintenant, pleurer, ça sert à rien et ça ne change rien. Parlons de fond, parlons de joueurs, parlons de Garcia, du projet de jeu. Ça sert à rien, ça. On n'en veut plus. Et nous, en tant que supporters marseillais, on est fatigués des guéguerres entre Aulas, Hérault, Aulas, La Brune, Aulas. Il les a tous fait, Aulas.
Hicham, je vais continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Mais regardes tous les... Il y a deux grands sites d'information alternatifs sur l'Olympique de Marseille. Ils sont tous sortis des éditos en disant que Jacques-Henri Hérault devait prendre position face à Jean-Michel Aulas. Je pense que, je te dis pas que c'est intelligent, mais je pense qu'il avait besoin de le faire. Il a besoin de se mettre ces gens-là dans la poche. Je te dis pas, Daniel a raison, je te dis pas que c'est la chose la plus intelligente à faire, mais je persiste à dire que c'était nécessaire.
Mais maintenant que c'est fait,
maintenant il a arrêté.
Je pense qu'il faut qu'il tourne la page. Il faut pas que, en plus, on va se battre avec Lyon sportivement pour la deuxième place. Ça va être une belle deuxième partie de saison.
N'oublie pas Monaco, Hicham.
On va aussi se battre avec Monaco. Je les oublie pas. Mais là, en l'occurrence, on parle d'Olas, donc je parle de Lyon. Mais le but de Hérault en tant que président, c'est de fédérer une équipe, de fédérer un club, de fédérer des supporters avec leur entraîneur. C'est pas de se prendre la tête avec Aulas. On s'en fout d'Aulas. Il a son équipe, il a son stade. Lui, sa boutique, elle tourne très bien depuis 15 ans. Il a gagné des trophées. Il va sûrement en gagner d'autres. Il a des pépites comme Fekir, comme d'autres Aouar qu'il va revendre. Donc, nous, on s'en fout de Lyon. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs, des talents d'avenir, de nous faire des vraies compositions d'équipe. Parlons de football. Arrêtons de parler de pénalty, de la victimisation à outrance toute la journée. On en a marre.
Mais là dans les échos, il a parlé de choses importantes pour le club quand même, Hicham.
Exactement. Il a parlé de la formation.
Tu sais que si t'es supporter de l'OM, c'est que c'est tout ce qui manquait à l'OM ces dernières années.
Il n'est pas le seul à en avoir parlé.
Non, mais là-dessus, sur les structures du club, tout ce qu'il a annoncé, là, il l'a fait. jusqu'à présent.
Non, 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 mais
merci,
c'est
ils sont sérieux là-dessus.
Non, merci, là-dessus, Cham, de nous avoir appelé. Bonne soirée, Cham.
C'était un plaisir, les gars.
À bientôt, salut, Cham. Salut, bonne année à toi.
Là-dessus, j'ai rien à dire. Voilà.
Ils sont sérieux là-dessus.
Sur l'idée qui met en avant.
Messieurs,
quelques
petites infos pêle-mêle. Ambroise Ongoyo quitte l'Impact de Montréal et s'est engagé avec Montpellier.
On l'a dit ça tout à l'heure.
Oui, je sais. Je le répète pour ceux qui viennent de
Freddy Adu, n'oublie pas.
Stavitski, Timo Stavitski, jeune finlandais, s'est engagé avec Caen. Il a 18 ans, c'est un ailier droit. Beric est de retour à Saint-Etienne. Son prêt a été cassé avec Anderlecht et il revient chez les Verts. Monaco prête Meite à Bordeaux. Monaco prête Terence Kongolo à Huddersfield. Le Talek ne reviendra pas en France. Il n'a pas trouvé d'accord avec Orléans. Voilà, c'est une info. Du Républicain du Centre. Freddy Adu. Alors, vous vous souvenez de lui, très certainement, qui était passé par Monaco. Le nouveau Pelé, c'est ainsi qu'on l'avait surnommé quand il avait démarré en pro. Mmh. C'était le plus jeune pro à l'époque de l'histoire du foot. À 14 ans MLS. Et il va découvrir, très certainement, le 9e pays différent de sa carrière.
Indéfinissable.
En Détroit, suédoise, il va très certainement signer. C'est une info.
Il va choper là-bas.
De Bladette. Voilà, il va peut-être signer au Oscar Schanz Aika. Quoi?
Non, rien, mais vous n'avez pas compris.
Non, j'ai pas écouté surtout.
J'ai dit, il va choper là-bas.
Pourquoi?
Ben, je sais pas, il y a des clichés qui ont l'air d'être.
Ah, bravo, les bonnes résolutions. Rémi Descamps, le troisième gardien du PSG, s'engage avec Tours. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Et Neymar a remporté le Samba d'Or. C'est le trophée du meilleur joueur brésilien évoluant à l'étranger. Ouais. Il a remporté 27,7% des votes et il remporte devant Coutinho, qui était à pratiquement 17%, et devant Marcelo à 14%.
Très bien.
Voilà. Et Ousmane Dembélé a repris avec le Barça aussi. Ah. Voilà. Ça, c'est important.
Il est apte, là, non?
Ouais. Il est revenu après 3 mois et demi d'absence. C'est le Barça qui a balancé l'info aujourd'hui. Sur son compte Twitter, ils avaient l'air contents, les Catalans, tu m'étonnes. Merci messieurs.
À demain,
messieurs. Voilà, on sera
après
là demain.
Arsenal Chelsea.
On sera là à partir de 22h45 demain. Il y a Arsenal Chelsea effectivement à suivre. Ici même, la grosse affiche de la 22e journée de Première Ligue. Merci à toutes et à tous. Et une nouvelle fois, une bonne année. Beaucoup d'amour. À demain.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.